Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et c'est donc l'heure de Cop Nord. Ce soir encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens, même les jours fériés. Et au sommaire, donc ce soir, à 4 journées de la fin du championnat, Lens est assuré d'être européen l'an prochain. Encore plus depuis sa victoire 2-1 face à Marseille, ce qui permet au sang et or de remonter à la deuxième place, 2 points devant leurs adversaires du week-end. Les Lillois, eux, ont grillé leur joker avec leur défaite 1-0 à Reims. Un match où Rémi Cabella a notamment manqué un but tout fait. Week-end à oublier pour les Dogs puisque Monaco et Lyon se sont imposés et relancent donc la course à l'Europe. Une nouvelle fois, le LOSC a montré un visage différent à l'extérieur alors qu'il règne à la maison. Un constat qui peut aussi se partager pour les Lensois. Alors comment expliquer les Stade Bollaert et la Decathlon Arena soient des citadelles imprenables cette saison? On en parlera avec nos supporters Lensois du soir. Bonsoir Julien Castagnoli et Simon Vianne.
Bonsoir.
Bienvenue sur ce plateau et en face, le côté Lillois, représenté par Patrice Clairaut, le secrétaire des Docs d'honneur.
Bonsoir
Patrice.
Bonsoir.
Et vous aussi, vous pouvez évidemment, comme chaque semaine, participer à cette émission grâce au compte Twitter et au hashtag CopNord sur les réseaux sociaux. On attend vos messages. Et on va donc commencer par cette victoire du Racing Club de Lens samedi face à Marseille. Résumé de la rencontre avec Antoine Sabardin.
Pour la 24e fois de suite, le Stade Bollaert affiché complet. Et pour la 19e fois, cela a porté chance au sang et or. Dans un match intense, Seko Fofana débloque la rencontre à la 42e minute. La frappe est sublime, Bollaert exulte. Le Racing Club de Lens prend l'avantage au meilleur moment. À l'heure de jeu, le but du break est signé de l'inévitable Loïs Openda. 19e réalisation pour le Belge cette saison. En fin de match, Marseille réduit l'écart. Mais Lens s'impose 2-1 et reprend la deuxième place du classement.
Et samedi, on a donc eu le choc au sommet qu'on attendait dans ce genre de rencontre. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Et si on regarde les statistiques, on voit que Marseille a eu un peu plus de domination dans le jeu. 57% de possession pour l'OM, 14 tirs à 9 et 3 tirs cadrés chacun au final. C'est donc Lens qui s'est imposé. On parle pour vous peut-être du plus beau match de Lens cette saison ou peut-être du plus réaliste?
Moi, j'irais plus réaliste. Parce que j'ai vraiment apprécié le match, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité folle, les duels, c'était assez fou, etc. Mais j'ai trouvé que techniquement, c'était pas notre meilleur match. Après, c'est sûr qu'avec le scénario, c'est génial, mais on a été monstrueux, très très fort en réalisme. Quoi.
Une ambiance en plus géniale.
Ouais, carrément. Hein, je pense que en termes de plus beaux matchs, on pourrait citer Monaco, on pourrait citer aussi. Lorient et Paris. Ouais. Mais là, c'est vraiment dans l'intensité. Les Lensois ont été vraiment très très forts. C'était un peu le même physionomie de rencontre que cette semaine à Toulouse, où Lens a démarré, s'est sacrément fait bouger sur les 20 premières minutes. Mais on voit que Lens, cette année, c'est une équipe habitée, c'est une équipe qui est costaude, qui sait répondre, même quand elle est poussée dans ses retranchements. C'est ce qu'on a encore vu samedi soir contre Marseille.
Julien, qui pour toi était le top côté Lensois?
Alors, je vais être rapide. Donc, Seko Fofana.
Seko Fofana.
Frankowski.
Et Frankowski pour Patrice. Donc Fofana, qui est donc l'auteur du premier but, c'est ça qui fait que, ou c'est qu'il a régné sur le milieu de terrain?
C'est toute l'intensité durant tout le match. Je pense que au début, on se fait bouger par Marseille, on s'y attendait. Et je pense que Seko, avec la frappe sur le poteau, il réveille tout le monde. Il dit ok, c'est bon, maintenant ça fait 20 minutes qu'on est dans le dur. Maintenant, la physionomie change en fait. Il fait basculer le match déjà à ce moment-là. Et ensuite.
Même dans l'attitude, moi, c'est un vrai capitaine. Moi, ce que j'attends des joueurs, nos meilleurs joueurs doivent être bons dans les gros matchs, et lui, il l'a fait. Et même juste après le but, si on regarde bien, quand il célèbre, il dit tout de suite, on se calme, on se replace, tout le monde se remet, etc. Enfin, et je trouve qu'il a vraiment porté l'équipe de A à Z pendant tout le match, quoi.
Et ça faisait plusieurs semaines, pourtant, qu'il était dans certains flops. C'est quoi? C'est qu'il avait un coup de mou? C'est qu'il lui faut ce genre d'affiche, justement, pour briller,
peut-être,
pour briser le signe indien sur les poteaux?
Après, il a pas eu aussi beaucoup de réussite. Il a quand même tapé, je pense, 6 ou 7 fois les montants cette saison, et après je pense aussi qu'on a une attente folle avec ce joueur, parce qu'on sait que c'est notre meilleur joueur, donc c'est sûr que dès qu'il ne fait pas une frappe venue de nulle part, on est un peu parfois peut-être trop exigeant, même si normalement avec les bons joueurs on doit l'être, mais ouais, c'est vrai qu'il est dans tous les gros rendez-vous, il a été présent, et ça c'est le plus important, je trouve.
Ton flop alors?
Flop, moi c'est Machado.
Machado,
ouais.
Machado également.
Machado.
Fugini.
Voilà.
Je suis gêné comme eux.
Mais c'est bien, on voit donc qu'il y a la table qui est coupée en deux, on verra ça tout au long de la soirée.
On voit pas.
Tu veux peut-être
match,
un verre d'eau, Patrice?
Non, ça va aller.
Ça va aller. Attends, ça reste va... avec nous. Hein. Non, t'inquiète pas, je sais que tu t'étouffes quand tu dois parler de Lens.
Non, ça va. Non.
Bah, du coup, pourquoi Fugini alors?
Parce que je pense qu'au milieu. Je pense qu'il a
Bon, il vient d'Angers, il a la pression était forte sur ce match-là. Et je pense que c'est le seul. Moi, j'ai été super étonné de cette équipe de Lens, qu'elle tienne la pression à ce point-là, même quand ça a été compliqué, effectivement, début de match par Marseille. Alors, il y a eu un fait de match, on en reparlera peut-être après.
Bah, tu peux en reparler tout de suite, on parle du but refusé
à Sanchez.
Exactement.
Qui change les choses, mais moi, j'ai été impressionné par Lens. Sur vraiment cette, il y a une maturité dans cette équipe qui se dégage là. Alors ça fait 3 ans que les deux premières années, ça fait 7e, 6e, là ça va faire 2 ou 3. Et je pense qu'il y a vraiment cette maturité qui arrive. Et Fulgini, il est encore tendre psychologiquement plus qu'autre chose dans un match comme ça. Alors nous, on n'y était pas, hein, bien entendu. Mais je pense que la pression a été hyper importante sur le stade. Et celui qui a encore le plus de mal aujourd'hui à rentrer dans ce match-là.
Alors on va revenir quand même sur ce but refusé à Alexis Sanchez. C'est à peu près la 20e minute de jeu. Effectivement, il y a un duel avec Danso. Le but est d'abord validé par Clément Turpin. La VAR l'appelle. Puis donc annule ce but et ça fait encore parler aujourd'hui du côté de Marseille. Écoutez l'entraîneur marseillais Igor Tudor.
Je l'ai dit à l'arbitre à la mi-temps. Il a eu le courage d'annuler le but, mais pas de mettre un carton à Medina. Il a eu les boules de le faire dans un sens, mais pas dans l'autre.
Oui, parce que ce que reproche donc Igor Tudor, c'est aussi un autre fait de jeu, le deuxième carton jaune qui n'a pas été donné à Medina. Mais pour vous, Simon, Julien, est-ce que le but d'Alexis Sanchez, le duel, avait raison d'être sanctionné?
Alors, je suis supporter lensois, mais pour moi, il y avait but, honnêtement. Le gros problème, de toute façon, c'est un peu ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'en fait, la VAR, c'est jamais logique. C'est-à-dire que si on refuse ce but-là, d'accord, ok, c'est la règle en Ligue 1, il n'y a pas ces duels-là, sauf qu'on voit le but de Wailly contre Lyon, bah, il y a ce duel-là. David, dans le match contre Reims, il y a un duel, c'est pas sifflé. Enfin voilà, en fait, c'est encore une fois la cohérence globale de ce genre de faute. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'énerve, c'est que chaque match est différent en termes d'arbitrage, et dans ce cas-là, l'arbitrage forcément influe énormément sur le score, quoi.
Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a faute. Mais en fait, comme le dit Simon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est divisé. C'est parce que la règle, elle est pas claire. Pour moi, il y a une charge dans le dos, donc dans ce déséquilibré. Est-ce qu'il joue l'obstruction? Je pense pas. Il essaie de protéger le ballon, donc il joue pas vraiment non plus le ballon. Donc c'est pour ça qu'il y a un débat. Mais en même temps, effectivement, il y a surtout un souci de clarté sur ce type de situation. On en parlera de Lille après, mais de la même manière, moi je pense qu'il y a pénalty sur David aussi.
On peut trancher. Patrice, c'est toi qui vas trancher. Est-ce qu'il y avait faute sur Danso?
Alors, pour moi, il y a faute. Clairement, je rejoins Simon là sur l'histoire qu'effectivement il y a faute. Par contre, Julien, je rejoins Julien, effectivement il y a faute. Par contre, on voit plein d'autres actions. J'ai vu une action ce week-end, notamment de Haaland avec City, qui fait quasiment la même chose mais à puissance 100. Il va au but, il la marque. Je pense aussi que quand on parle des clubs de français en Ligue des Champions, si l'arbitrage est aussi strict ici. Quand on y va, ça m'étonne pas qu'on se fasse bouger aussi à un moment ou à un autre.
Non, mais c'est surtout la règle. Normalement, l'arbitre, il est appelé pour erreur manifeste. Donc déjà, si entre nous on n'est pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'erreur manifeste, c'est qu'il peut y avoir débat.
Après, nous on maîtrise pas les règles, et les intertitres.
Il y a erreur parce que il considère lui qui a but. Parce que tu repars le valide au débat.
Donc c'est là l'erreur manifeste, d'accord avec Julien.
Alors peut-être. Alors en plus, moi, alors après, c'est toujours la magie des réseaux sociaux, mais il y a une image qui est sortie sur le placement de Clément Turpin sur cette action-là, où clairement il est au niveau de la défense marseillaise. Il revient parce que je pense qu'il revient plutôt tranquillement en disant Lance fait tourner la balle. Et en fait, il est quand même très loin de l'action. Donc peut-être qu'il se dit, il y a peut-être un truc, mais je siffle pas tout de suite parce que je pourrais revenir après, tandis que si je siffle tout de suite, j'annule l'action tout de suite. Et vu le temps qu'il met sur la VAR, je pense que déjà, il disait, il y a faute. Il regarde très rapidement quand même. C'est une décision assez rapide. Donc lui, c'est toujours ça. Enfin, pour moi, on peut en parler pendant des heures.
De toute façon, on ne fera pas la journée, on n'est pas d'accord ce soir.
Pour finir, le problème de la VAR, il est aussi là, mais souvent sur les hors-jeux, c'est pareil. Ça joue jusqu'au bout, alors que tout le stade va voir que quelqu'un est hors-jeu. Ça va aller jouer jusqu'au bout pour à la fin aller voir et dire, finalement, il n'y est pas. Il y a quelque chose qui cloche un peu dans cet arbitrage-là, mais depuis plusieurs années.
Il y a encore plein de choses à faire de toute façon, et ça se fera le rôle d'Anthony Gauthier.
Il fallait mettre des micros, ils veulent pas.
Gérer. Ça, c'est l'IFAB, ça, c'est l'arbitrage international, alors que l'arbitrage français est plutôt d'accord. On revient donc sur Lens qui s'impose face à Marseille, qui reprend 2 points d'avance, qui reprend cette deuxième place. Finalement, c'est un des matchs les plus importants de la saison, c'est ce que disait Openda à la fin de cette rencontre.
On frappe à grand coup aujourd'hui. En battant Marseille, mais bon, maintenant il nous reste 4 matchs à, à essayer de continuer sur cette lancée. Et je suis confiant sur ça et je suis sûr qu'on va faire un bon résultat. On est tous forts mentalement, on est unis. On savait très bien à quoi s'attendre contre Marseille. On savait très bien que c'était un match pour la deuxième place. Nous, on a joué comme d'habitude, sans pression et on a joué chez nous. Comme d'habitude. Là, maintenant, on est déjà assuré d'être européen. Maintenant, c'est à nous de faire le travail pour essayer de décrocher une place en Ligue des Champions.
Payet aurait dû.
Et à noter donc que les gros ne font plus peur à Lens, hein, puisqu'avec Paris, les Sang et Or sont ceux qui prennent le plus de points face aux équipes du top 5. 2 points en moyenne. Je le disais tout à l'heure au début de cette émission, à 4 journées de la fin, Lens est assuré d'être européen la saison prochaine. Est-ce que ça veut dire que maintenant, l'objectif, c'est Ligue des Champions, voire peut-être le titre ? Sachant qu'il y a 6 points de retard sur Paris.
Alors déjà, le début de la phrase, moi je trouve ça... Enfin, c'est fou de se dire qu'on est européen. Enfin, c'est juste génial. Là, encore une fois, pour moi, la victoire contre Marseille, elle assure pas du tout la Ligue des Champions. Ça va être encore très serré. Il n'y a que 2 points, donc il suffit d'un nul. Et je pense de mémoire que le goal average est favorable à Marseille.
Mais il y a 2 victoires de toute façon, donc le goal average particulier...
Ah oui, le goal average, ok, bien vu. Mais du coup, oui, pour moi, maintenant, faut tous les matchs sont des finales, et puis il faut, de toute façon, ça fait un petit moment qu'on se cache plus, mais il faut au moins être sur le podium.
Bah, on se posait la question au début du mois d'avril, parce qu'on voyait le calendrier de Lens avec Rennes, avec Monaco, avec Marseille, c'est avec vrai. Paris. On s'est dit, bon, voilà, c'est là où ça va se jouer, en se disant, bon, Lens est deuxième, est-ce qu'ils vont réussir à garder cette deuxième place ? On a vu les matchs et le contenu des matchs. Même la défaite à Paris, j'ai envie de dire, presque même limite le match de Strasbourg qui était le moins abouti de tout le mois d'avril. Mais Lens a été costaud dans tous les matchs, quoi, quasiment tous les matchs. Et donc pour l'instant, est deuxième. Donc on ne peut pas s'attendre effectivement à autre chose que d'essayer de maintenir le cap. Et ça va être difficile parce que c'est Reims la semaine prochaine. Et Reims, c'est une équipe super compliquée à jouer. On va en parler avec Lille, mais Reims a posé des problèmes à énormément de monde cette année. Lorient ne fait pas une mauvaise saison, même s'il termine un petit peu difficilement. Voilà,
C'est surtout le changement de là, on va être chassé maintenant.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit gagner les matchs, et donc il y aura une pression qui va être différente. Et on va voir, là encore une fois, on disait qu'on a bien géré la pression contre Marseille, mais là, c'est pas la même attitude de se dire on est chassé. Si on ne gagne pas ce match, derrière, Marseille pourra revenir. Donc, même dans les têtes, on verra comment aussi ils appréhendent les matchs maintenant. Quoi.
Alors, on va juste avancer, je suis désolé, Julien. Ouais, on va parler aussi de Joseph Ougourlian qui a parlé de. C'était un rêve à son arrivée lorsqu'il a repris le club. C'est officiellement une réalité. Le Racing assuré de jouer l'Europe la saison prochaine. Un marqueur fort du renouveau de ce club à l'identité singulière, évidemment. Le propriétaire, le président du club, qui est évidemment un des hommes forts de la reconstruction des Sang et Or. Je voudrais qu'on avance sur le débat de ce soir, la différence à chaque fois entre domicile et extérieur. C'est assez marquant. Du côté des Sang et Or, 17 matchs, 15 victoires, 1 nul et 1 défaite. Patrice, tu te souviens forcément des points pris au Stade Bollaert. Alors qu'à l'extérieur, Lens, c'est 17 matchs, 6 victoires, 8 nuls et 3 défaites. Comment, pour vous, on pourrait expliquer cette différence entre domicile et extérieur ?
Moi, je pense qu'en fait, Lens ne fait pas une mauvaise saison à l'extérieur. Hein. Il n'y a que 3 défaites. Il y a eu beaucoup de matchs nuls et j'allais corroborer les propos de Simon sur les équipes plus moyennes. Effectivement, il y a beaucoup de points perdus contre ces équipes-là, notamment à l'extérieur, le match à Troyes, le match à Strasbourg, même si Matzels fait un match dingue. Mais en fait, c'est surtout Lens qui fait une saison exceptionnelle à domicile. Enfin, là, on parle de 15 victoires, c'est jamais arrivé. Là, on est extrêmement haut finalement. Donc en fait, le différentiel, il est important parce qu'il y a cette saison qui est exceptionnelle à Bollaert.
Vous surperformez, Lens surperforme à Bollaert pour toi ?
Globalement sur l'année, de toute façon. Si on... Après, moi je pense quand même que quoi qu'il arrive, le 12e homme joue, il y a une ambiance assez folle à Bollaert et on sait qu'on pousse l'équipe à 100%.
24e fois d'affilée.
Donc ça joue. Forcément, il y a le repère sur le terrain, mais quoi qu'il arrive au global de la saison, oui, on surperforme. Le 11e budget qui se bat pour la Ligue des Champions, c'est lunaire, c'est fou. C'est-à-dire, on a battu notre record de points. Et on s'est jamais arrivé que Lens ait 72 points en championnat, donc c'est juste exceptionnel. Mais en effet, moi je pense quand même que Bollaert joue énormément dans l'attitude, même on le voit dans le. Enfin, il lâche. Déjà dans l'attitude, il lâche jamais rien. Mais alors là, avec le 12e homme qui pousse, c'est juste fou quoi.
Une saison exceptionnelle, donc il reste encore 4 rencontres cette année pour pouvoir essayer de terminer ça de la meilleure des façons. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub et ensuite on reviendra sur la défaite de Lille à Reims. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord, et si je devais citer Patrice Clairaut, j'aurais dit parlons des choses qui fâchent. C'est ce qui vient de se dire pendant le générique résumé de la rencontre et de la défaite de Lille à Reims avec Arthur Jean.
Le LOSC n'est pas parvenu à profiter du faux pas de Rennes pour prendre le large concernant les places européennes. La faute à une défaite par la plus petite des marges et à ce but rémois inscrit par Marchan Mounetzi. Les Lillois ont poussé, multipliant les occasions mais sans succès. Rémi Cabella a par ailleurs signé un beau raté, tout seul face au but. Les Dogs restent 5e à 5 points de Monaco.
Avec 64% de possession du ballon, le double de passes de leurs adversaires du jour, les Dogs ont donc bien eu le jeu dans le pied, mais trop peu de solutions. Les Lillois qui n'ont tenté que 11 tirs contre 14 côté rémois et aucun des 5 tirs cadrés qui n'ont donc fait mouche samedi soir. Patrice, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un top à retenir de côté Lillois?
Lucas Chevalier.
Chevalier.
Chevalier aussi.
Chevalier. Moi. Julien.
Ouais, j'ai eu un peu de mal, Chevalier.
Chevalier, donc l'unanimité pour Chevalier, ouais. Qui pour toi était le meilleur Lillois sur la pelouse.
Bah, c'était le meilleur Lillois, alors c'était pas très compliqué d'être le meilleur. Mais il nous a quand même sauvé. On aurait pu rentrer à la mi-temps avec 2 ou 3 buts, 2-3-0, n'aurait rien dit. Et merci aussi l'arbitre qui a été là, par contre, nickel, pour annuler le carton rouge. Parce que nous, on se voyait partir sur notre enchaînement Monaco-Marseille, avec Costil dans les buts, qui est à 5 buts de moyenne encaissés sur les dernières saisons.
Oui, alors on va expliquer quand même aux téléspectateurs, ouais, ce qui s'est passé. Donc Lucas Chevalier qui sort, qui tacle faute, donc dans les pieds de l'attaquant Rémois. L'arbitre qui sort d'abord le carton rouge, pensant qu'il y avait faute. Là, la VAR appelle.
Ouais. Et revient en arrière.
Lucas Chevalier avait manifestement touché le ballon. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun débat. Donc je ne vais pas vous poser de questions là-dessus.
Le garçon grandit de plus en plus au fil du temps.
Et peut-être aussi un mot sur José Fonte, qui l'a fait, ouais. Franchement, n'est pas, il n'a pas laissé Chevalier tout seul, ouais, sauf peut-être sur le but.
Fonte fait des belles interventions, effectivement, fait son match, clairement, il fait ce qu'on attend de lui. Après, en ce moment, l'image de Fonte au LOSC, elle n'est pas géniale, parce qu'on voit quand même que sur pas mal d'occasions, notamment Balogun, il a quand même, ce qu'on va dire, on va être gentil, on va dire qu'il a encore la caravane. Depuis le début de saison, on le dit, et plus on avance dans la saison, on voit que le poids des âges commence à se faire sentir.
Et ton flop, alors?
Le flop, alors j'ai beaucoup hésité. Mais je vais pas le mettre un parce que je pense que quelqu'un d'autre le mettra. Mais moi je vais mettre Bamba cette fois-ci.
Cabella, moi.
Cabella.
Cabella aussi.
Cabella pour le manquer, ouais, je suppose.
Faute professionnelle pour moi, ça. C'est...
En tout cas, Cabella, donc, qui s'est présenté, hein, face à la presse en zone mixte. Et pour lui, bah, le besoin, c'est vraiment pour les joueurs de se vider la tête après ce faux pas. Écoutez.
On n'a plus le droit à l'erreur. On en a fait une aujourd'hui. Et on s'en veut énormément. Je pense qu'on a besoin de. Voilà, de vider un peu les têtes, de se remettre en question. Ce n'est pas une question de pression, c'est une question qu'on est tous concernés. On a tous envie de faire quelque chose de beau, mais des fois, il faut aussi faut savoir aussi se vider la tête, se remettre en question quand on fait des matchs comme ça où on perd. Et je pense qu'on en a besoin. C'est un tout et on est une équipe et on va le faire tous ensemble.
Il y a noté que Rémi Cabella, c'est l'auteur du plus gros raté cette saison en Ligue 1. Se manquer, il avait 96% de chance avec certaines statistiques de marquer. Donc c'est donc le plus gros raté cette saison. À noter que Rémi Cabella, qui a été prolongé de 2 saisons, ça a été officialisé cette semaine. Dans le jeu, s'il fallait parler juste du jeu, est-ce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure? C'est Will Steele qui a un peu donné des leçons tactiques?
Ouais, c'est ce que je disais avant l'émission, effectivement. Will Steele, alors, on savait que Reims avait un jeu comme ça. Ça faisait 2-3 matchs qu'il s'était un peu passé à côté. Et là, je pense que c'est un garçon qui. On sait qu'il a joué beaucoup sur Football Manager, ouais, qu'il a joué comme ça. Je pense qu'il a pris Fonseca à son propre jeu. Et il avait vraiment analysé le jeu de Fonseca. Et ça s'est joué au milieu. Et au, exactement, milieu, il les a bloqués, mais avec force, avec 2 attaquants qui vont très vite devant. Il a joué tout là-dessus. Et je pense que le match s'est joué tactiquement. Il s'est joué plus tactiquement que sur autre chose.
Et avec donc ce joker grillé, puisqu'on l'a dit, Lyon a gagné, Monaco a gagné. Ça veut dire plus le droit à l'erreur sur les 4 derniers matchs?
Ah bah non, parce que mathématiquement, il nous reste un joker, parce qu'on a 6 points d'avance.
Ça a plus que 3 points d'avance sur Rennes et 3 sur Lyon.
Ouais, mais il restera quand même un joker, parce qu'il y a un Rennes-Lyon qui va se jouer. Donc,
il y a un
Monaco-Lille. Le match de dimanche prochain à Monaco est hyper, hyper important.
Il y a à noter aussi d'autres points, hein, qui se sont passés pendant cette rencontre. La blessure d'André Gomes qui n'a pas joué parce qu'il a ressenti une gêne. Zegrova qui est sorti sur blessure. Et puis on a aussi Fonte et Alexandro qui seront suspendus contre Marseille tous les deux à cause d'un carton rouge. Parlons de cette différence entre domicile et extérieur. Lille, c'est 17 matchs à la maison, 11 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les défaites qui remontent au mois d'août. À l'extérieur, c'est 6 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Là aussi, Patrice, comment toi tu l'expliques cette différence?
Alors moi, pour avoir les derniers matchs, pour les avoir vus à domicile et à l'extérieur, on voit pas du tout la même équipe. C'est pas
Mais
du
pourquoi
tout, pas du tout le même jeu. Moi, je pensais qu'on allait en plus sur des équipes de bas de tableau, hein, entre guillemets, parce que tout à l'heure, on a fait Angers, on a fait Auxerre, bon, Reims un peu plus haut. L'équipe joue pas de la même façon, joue pas aussi libérée.
Et comment tu l'expliques ?
Et prend pas le jeu à son compte. Et il y a des équipes en face aussi, ben, qui veulent. Ben, il y a le cinquième qui arrive chez eux. On parlait tout à l'heure de Lens, de ce qui pouvait arriver. Ouais. Ben oui, quand vous recevez le cinquième qui joue l'Europe, ou etc., etc., ben, vous donnez un peu plus. Le public en face donne un peu plus. Il y a toujours un plus qui fait que.
Et le je pense plus, que c'est ça toujours joue. Le public alors ?
Non, c'est pas toujours le public, c'est aussi la volonté des joueurs. Et chez nous, à l'extérieur, on a beaucoup plus de mal que ça. On les reconnaît pas. Il y a beaucoup de joueurs qu'on reconnaît pas à l'extérieur, quand ils jouent à l'extérieur et quand ils jouent à domicile aujourd'hui.
Alors, si on va donc maintenant regarder le classement de cette Ligue 1, Lens qui remonte donc à la deuxième place du classement, 6 points derrière Paris, 2 unités de mieux que l'OM, la mauvaise opération donc pour Lille, toujours 5e, mais avec 5 points de retard désormais sur Monaco, seulement 3 unités de plus que Rennes et Lyon. Au programme ce week-end, vendredi, Lens accueillera Reims et dimanche à 17h, Lille sera à Monaco. Les autres rencontres de haut tableau, Paris-Ajaccio, Clermont-Lyon, Rennes 3 et Marseille-Angers. Et on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé dans la région en termes de sport, avec notamment le maintien de l'ESSM en Betclic Elite, résumé avec Arthur Jean.
Match fou entre le VAFC et Nîmes en Ligue 2, mais seulement un petit point pour Valenciennes. Ilyes Amach répond à Tchokounte juste avant la mi-temps. Aymen Boutoutaou, lui, inscrit un doublé. Insuffisant pour prendre l'avantage, puisque Benezé clôt la marque d'une magnifique reprise de volée pour les Nîmois. Score final 3-3, le maintien n'est toujours pas assuré pour VA. Pour le SSM en basket, le maintien est lui assuré. Malgré une belle claque reçue au Mans 99-73, les Portelois ont validé leur présence en Betclic Elite la saison prochaine. Une situation rendue possible par la victoire de Nancy face à l'Élan Béarnais. Il reste tout de même 2 matchs pour terminer la saison. Le prochain à Cholet, puis une ultime rencontre à domicile contre Dijon. Handball, lourde défaite pour l'USDK à Nantes, 37-19. Théo Avelange n'est pas parvenu à sauver les meubles avec ses 6 buts. Jamais lui et ses coéquipiers n'ont pu mettre en danger les Nantais, qui menaient déjà 20-9 à la pause. Dunkerque est 9e du championnat. Plus de succès pour les filles de l'ESBVA. Elles ont décroché leur ticket pour les demi-finales de play-off de Ligue féminine. Victoire large 82-58 contre Angers samedi dernier. Demain soir, rendez-vous à Montpellier pour la suite des hostilités.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Cop d'Or. Merci à Théo Dorangeau à la réalisation. Merci Patrice, Julien Simon.
Merci beaucoup.
On se retrouve très rapidement. Merci à la rédaction de RMC Sport aussi qui nous aide chaque semaine à la création de ce Cop d'Or. On se retrouve nous toute la semaine sur les réseaux sociaux, sur le site internet BFM Grand Lille et sur Spotify. Et moi je vous dis à lundi prochain. Salut.